vous proposons une nouvelle édition de Du côté de chez Schwarz, l'émission actuelle et culturelle de Radio Shalom. Et cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir Melvina Mestre, autrice de 3 romans policiers, Crépuscule à Casablanca, Sang d'encre à Marrakech et Bon baiser de Tanger, des enquêtes de Gabriel Kaplan, paru dans la collection Policiers au Point. Bonsoir Melvina.
Bonsoir Sandrine et merci pour votre invitation.
Merci à vous d'avoir accepté de parler de votre triple actualité dans cette émission. C'est vraiment un plaisir de vous avoir ici. Quelques mots de présentation tout d'abord. Vous êtes née à Nice, mais c'est à Casablanca que vous avez grandi. Avant de rejoindre Paris pour y suivre vos études, vous êtes diplômée d'une licence d'histoire et de Sciences Po Paris. On comprendra plus tard pourquoi c'est important. Et vous avez d'abord mené une carrière dans les médias, au sein du groupe Marie-Claire, puis à France Télévisions. Aujourd'hui, vous êtes déléguée générale adjointe de la Fondation Engagement Média pour les Jeunes et vous agissez concrètement en faveur de la lecture, de l'écriture et de l'éloquence auprès de jeunes en difficulté. Depuis peu, vous êtes l'autrice d'une série de polars qui mêle enquête et espionnage dans le Maroc des années 50, encore sous protectorat français. Casablanca, Marrakech, Tanger, ces villes ne sont pas de simples décors, mais des personnages à part entière, traversés d'ombre et de lumière dans vos romans. Passionnée d'histoire et profondément attachée au Maroc, vous tissez vos intrigues dans un cadre multiculturel où musulmans, juifs et chrétiens cohabitent à l'aube de l'indépendance. Vos romans, salués par plusieurs prix, séduisent par la justesse de leur construction, la richesse des atmosphères et la profondeur psychologique de vos personnages. Entre romans noirs et récits engagés, vous proposez une autre manière de lire l'histoire en mettant en lumière les marges, les résistances, les silences, et c'est vraiment réussi. J'avoue avoir eu en vous lisant un véritable coup de cœur pour cette série. L'ambiance, les personnages, l'histoire, tout fonctionne et j'ai découvert le troisième opus avant de dévorer les deux précédents. Alors de quoi s'agit-il ? De 3 enquêtes policières qui nous plongent dans le Maroc des années 50, on l'a dit, à travers les enquêtes de Gabriel Kaplan, détective privé aussi brillante qu'intrépide. Tout commence avec Crépuscule à Casablanca, une affaire de divorce qui vire au cauchemar entre Barbouze, CIA et Indépendance en Marche. Puis vient Sang d'encre à Marrakech, où des corps tatoués apparaissent mystérieusement, menant Kaplan des quartiers sombres de Casablanca aux montagnes de l'Atlas. Enfin, Bon baiser de Tanger, dernière en date, nous entraîne dans le Tanger interlope des espions et des trafiquants, où Kaplan infiltre les milieux mafieux pour le compte des services secrets français. C'est vif, documenté, haletant, des polars historiques comme on les aime, où l'histoire n'est jamais un simple décor, mais une tension de fond. Gabriel Kaplan est une héroïne qu'on suit avec plaisir et qu'on a hâte de retrouver. La première question qui s'impose, Melvina Mestre, comment est né Gabriel Kaplan dans votre esprit ? Est-ce que vous êtes d'accord si on dit que c'est un peu votre double de fiction ? Ou bien est-ce que c'est un personnage totalement inventé ?
Ah non, je dirais qu'elle est totalement inventée. En tout cas, je n'ai pas son courage et son cran. Alors, comment est-ce qu'elle est née ? En fait, à l'origine, je voulais écrire sur Casablanca dans les années 50. Et d'ailleurs, vous l'avez souligné que les villes sont à chaque fois un personnage, finalement, qui nourrit l'intrigue et qui fait partie de l'intrigue. Et comme moi j'aime beaucoup le polar, je trouvais qu'il y a tout plein d'autrices en ce moment qui écrivent sur le Maroc, plutôt le Maroc contemporain. Et c'est beaucoup souvent des histoires de transmission, ou de famille, ou de tradition, ou beaucoup de social. Et je trouve que le roman policier se prêtait vraiment bien à cette période des années 50 où pour moi je visualise un décor hitchcockien parce que c'était une ville tellement moderne, toute blanche, avec des grandes avenues, des palmiers et des voitures américaines, que voilà, Et alors, justement, pour appuyer cette modernité, je me suis dit, ça va pas être un détective privé, mais une femme détective privée.
Alors, est-ce que quelqu'un vous a inspiré ou elle est vraiment totalement inventée?
Non, elle est totalement inventée. Alors, c'est vrai que... Oui, alors Kaplan, il y a quand même le clin d'œil au personnage d'Hitchcock dans La mort aux trousses.
Oui.
Qui est le fil rouge. On cherche un Kaplan pendant tout le film et en fait, il n'existe pas. Et aussi, je m'étais dit aussi, ça a aussi un petit clin d'œil au film Casablanca, où Ilsa Lund, en fait, elle est en transit à Casablanca avant de repartir avec Victor Laszlo en avion. Et je m'étais dit, eh ben, tiens, si elle était restée au Maroc, qu'est-ce qu'elle serait devenue? Eh ben, pourquoi pas, elle serait détective privée. Mais voilà, après, c'est... Et puis surtout, c'est très vraisemblable, parce que parfois, on me dit, ah oui, mais quand même, dans les années 50, une détective privée... Enfin, je pense qu'il n'y en a pas eu, mais c'est tout à fait vraisemblable, parce que dans ces années-là... Les Européennes, c'était pas toute la société non plus, les Européennes étaient très indépendantes, travaillaient, il y avait des institutrices, des infirmières, des secrétaires, enfin, ce qui n'était pas le cas forcément, même en France, à la même époque.
Alors on aime hein, ces caractéristiques physiques d'une femme qui ne s'en laisse pas imposer. Vous avez choisi qu'elle soit juive, qu'elle soit née à Salonique, et puis en même temps, alors je ne sais pas si on peut dire athée, mais elle a pris ses distances avec le judaïsme. Pourquoi ces caractéristiques-là?
Alors ça, c'est... Alors, je voulais montrer justement aussi, c'est pas que du polar, et vous l'avez très bien remarqué, je voulais aussi montrer à quel point toutes les communautés étaient quand même, à l'époque... Alors, c'était intermêlé...
Et
c'était,
intriqué.
Voilà, une mosaïque. Après, c'était pas tous les milieux sociaux, mais nulle part, c'est tous les milieux sociaux. Ça, c'est pas... Mais c'est vrai que dans les immeubles, on pouvait avoir plusieurs communautés. On se passait le sel, le café, etc. Donc ça, pour moi, c'était intéressant. Mais en même temps... Alors, pourquoi est-ce qu'elle est juive? Parce que comme elle a fui Salonique pendant la guerre, il fallait bien une bonne raison. Et en même temps, je voulais pas que ce soit quelque chose de trop communautaire avec que des gens du Maroc. Et je trouvais que c'était bien que justement elle vienne d'ailleurs. Et voilà, c'était un autre regard sur... Sur le judaïsme, c'est un grand mot, mais en tout cas, voilà, elle a beau être séfarade, puisque Salonique, c'était les Espagnols qui avaient fui il y a fort longtemps. Elle a vraiment un autre regard, puisque bah, elle a quand même vécu le nazisme, ce qui n'était pas le cas au Maroc.
Et puis, elle n'est pas toute seule pour mener ses enquêtes, et c'est ça qui est bien aussi.
Elle
est entourée dans chacun des tomes, hein, d'un acolyte musulman et puis d'une secrétaire chrétienne.
C'était vraiment très important pour moi, qui est justement toutes ces communautés.
Donc encore un clin d'œil au cosmopolitisme du Maroc.
Ben oui, parce que c'était ça à l'époque. Et puis alors Brahim, qui est effectivement indépendantiste et musulman, lui, il a fait la guerre. Il était officier dans l'armée d'Afrique du Nord. Et lui, il est très indépendantiste. Donc, on se doute que Kaplan aussi, elle est plutôt dans cette mouvance. Mais... On connaît pas trop ses opinions. Et Vincent, et Yvonne aussi, son amie Yvonne, qui a aussi toujours un rôle. Parce que, alors, Yvonne, c'est une grande mondaine qui travaille au CERF, enfin, qui tient une chronique des la rubrique mondaine de la Vigie marocaine, qui était le grand journal à l'époque. Et donc, Yvonne, elle connaît tout le monde, elle sait tout sur tout. Et souvent, ça aide Kaplan dans ses enquêtes parce que, voilà.
Alors, il faut le souligner aussi parce que Yvonne aussi est complexe. On ne sait pas exactement qui elle est. On ne sait pas non plus quelles sont ses orientations sexuelles.
Si, on sait quand même.
Elle est homosexuelle.
Oui, elle est lesbienne, ça c'est sûr. Alors, je pense qu'elle aime beaucoup Kaplan, mais il n'y a pas d'ambiguïté pour autant. Et alors, ça aussi, c'était pour la modernité de... Je sais pas pourquoi, ça m'est venu comme ça et je trouve que ça lui va bien.
Et ça va très très bien, puis ça ajoute encore du sel aux caractéristiques des personnages. Alors on l'a dit, Casablanca, Marrakech, Tanger, parfois même d'autres régions. Votre connaissance des rues, des villes est impressionnante avant et après, parce que vous donnez même le nom des rues après l'indépendance. Comment vous vous êtes documenté si précisément pour reconstituer si fidèlement ces villes à l'époque?
Alors, Casablanca, je connais puisque j'y ai grandi. Alors, pas dans les années 50, je précise. Oui. Et c'est vrai qu'à l'époque, il y avait encore les deux noms souvent. Et après j'ai un plan des années 50, donc je sais pas, par exemple rue de l'Aviation Française, si je la cherche, ou rue Bossuet, si je la cherche, je sais très bien où elle est. Et après je regarde sur Google le nom qu'elle a aujourd'hui, et en fait c'est pas très compliqué. Pour Marrakech pareil, et alors pour Tanger, j'ai eu la chance d'être à Tanger 3 semaines l'été dernier. Et j'ai eu une bourse de l'Institut français, donc j'étais en résidence artistique. Et alors là, j'ai arpenté, Tanger de long en large et en travers, un peu comme Kaplan, hein, parce que ça monte et ça descend. Et là, pareil, souvent, les noms ont les deux... Les rues ont les deux noms, ou... ça se trouve facilement, franchement.
Et le reste des informations, parce que historiquement, c'est quand même assez étoffé.
Alors, je mets la bibliographie à la fin depuis Sans encre à Marrakech. Je l'avais pas fait au début. Je lis beaucoup. Dès que je lis quelque chose sur le Maroc, je me le mets dans un petit coin.
Mais alors, vous êtes très intrigante. Est-ce que, en fait, c'est une nostalgie de votre enfance, ce cadre? Et puis aussi, pourquoi le polar? Parce qu'on a compris que votre vie professionnelle est assez fournie. Pourquoi passer comme ça, presque du jour au lendemain, à l'écriture de polar?
Alors, du jour au lendemain, ça a mis un petit peu de temps avant d'être publié, quand même. Ouais. Et comme tous les auteurs, j'imagine. Pourquoi le polar? Parce que je trouve que ça a manqué dans l'univers, c'est ce que je disais au début, dans l'univers de la production sur le... sur le Maroc. Enfin, il y a beaucoup d'autrices marocaines en ce moment, des jeunes et qui sont très talentueuses, mais il n'y a pas de... il n'y a pas beaucoup de Françaises ou de Français qui écrivent sur le Maroc. Alors, nostalgie, oui et non, parce que moi, je n'ai pas connu les années 50 de toute façon. En revanche, c'est vrai que quand j'étais moi petite et que je voyais les photos de mes grands-parents à la plage ou à leur voiture et tout ça, j'avais l'impression que c'était Hollywood. Et j'avais envie de réhabiliter un peu cette histoire commune parce que c'est pas qu'une histoire du Maroc, c'est une histoire de France, c'est une histoire d'Italie, c'est une histoire d'Espagne. Il y avait vraiment, Casablanca, c'était vraiment beaucoup d'étrangers. C'est pas que l'histoire du protectorat et de la France et du Maroc. Et c'était ça aussi qui faisait la richesse de cette société. Et puis, je voulais aussi montrer à quel point cette société était moderne à l'époque, parce qu'en France, on ne savait pas forcément. Mais je sais que les gens souvent me disent, quand on passait en Espagne, on a l'impression qu'on faisait 30 ans en arrière. Et en France, les gens n'avaient pas de salle de bain. Enfin voilà, c'était la reconstruction quand même. C'était la guerre froide. C'était quand même une période un peu dure en France et en Europe. Et c'est vrai qu'au Maroc, c'était un peu un Eldorado. Pas pour tout le monde, c'est toujours pareil, mais c'était vraiment un pôle d'immigration. Donc c'est vrai que maintenant, où c'est quand même un mot qu'on utilise beaucoup, à l'époque, c'était quand même dans l'autre sens.
Alors, il y a des choses qui sont très vraies et qui sont intéressantes à lire en plus du polar. Je vais citer dans Crépuscule à Casablanca un passage, parce que les années 50, évidemment, chronologiquement, c'est après la Seconde Guerre mondiale. Et il y a des choses qui ne sont pas forcément évidentes dans les relations entre le sultan, le résident général et même les colons.
C'est même très tendu.
Vous écrivez, pour la majorité des colons, le maréchal Pétain avait sauvé l'empire du joug allemand. Dans l'une des clauses de l'armistice, Vichy conservait en Afrique du Nord la flotte et une partie de son armée pour maintenir l'ordre et parer toute attaque extérieure. Effectivement, le Maroc et l'Algérie avaient été préservés du bruit des bottes de la Wehrmacht et des ambitions de l'Espagne qui rêvait depuis longtemps de participer au festin colonial en lorgnant sur l'intégralité du Maroc avec convoitise. Alors, l'armée, l'administration et les colons étaient donc restés redevables et fidèles au maréchal. Nous voilà, appliquant scrupuleusement son idéologie.
Oui, les colons de l'époque étaient franchement pétainistes. De Gaulle n'était pas très connu, à peine. Il y avait très, très, très peu de gaullistes. Enfin, oui, la France combattante, ça a été un peu connu et ça a suscité des vocations après le débarquement des Américains. Et beaucoup en Algérie, plus qu'au Maroc d'ailleurs. C'était pas... Et alors, il y a eu des lois raciales aussi à un moment. Il n'y a pas eu d'étoile jaune, grâce au sultan, qui a eu cette phrase que je trouve absolument magnifique, qui était « Il n'y a pas des juifs et des musulmans, il n'y a que des Marocains ». Alors ça, on devrait, on devrait l'écrire. Oui.
Mais en même temps aussi des ambiguïtés avec des spoliations, avec des organisations.
Voilà, donc il y a eu des lois raciales parce que les juifs et aussi les étrangers, parce que il se trouve que ma grand-mère qui était italienne à l'époque, elle n'avait pas la nationalité française, elle avait perdu son travail. Et donc, il n'avait plus le droit de travailler dans l'administration, dans la presse, elle travaillait dans un journal. En gros, c'est ça. Ça n'a pas été aussi dur qu'en Tunisie ou en Algérie, mais il y a eu quand même des politiques vexatoires, on va dire.
Vous avez une formation à la télévision. À vous lire, c'est très visuel. pas seulement les descriptions de Casablanca, de Marrakech ou de Tanger, mais aussi des personnages et des scènes. Vos livres pourraient faire de très bons films.
Est-ce que c'est ça, déjà j'en suis bien d'accord. Oui. Vous doutez bien que ce n'est pas moi qui m'y oppose. Oui. Je n'ai pas eu de proposition pour l'instant, ou des séries, une jolie série. Je trouve que ça, c'est des beaux personnages récurrents pour en faire une série. Mais c'est vrai que j'essaye d'écrire de façon visuelle. Souvent, au début, il y a un plan séquence, on la voit, voilà, on la voit évoluer, on la suit dans la ville. J'essaie vraiment de m'attacher et de bien représenter les décors, parce qu'ils sont importants, et vous l'avez dit.
Puis ce suspense qui est haletant, qui nous tient, et que parfois, quand on a l'habitude de lire notamment des enquêtes policières, on peut deviner ce qui va se passer, mais alors, dans vos livres, pas du tout.
Ah bah tant mieux.
C'est la surprise jusqu'au bout.
Tant mieux. Ce qui m'importe aussi, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de violence, et il n'y a pas de scènes gratuites, de manipulation, de torture, Après, chacun son univers, mais c'est vrai que le polar historique n'a pas besoin de ça, je trouve. Et moi, ça ne m'intéresse pas d'appuyer pendant des heures sur comment on a tué Tartampion, et s'il y a du sang, etc. Et ça aussi... les amateurs de grands frissons et de grosses violences, avec moi, ils sont un petit peu déçus, mais pas les autres.
On n'est pas déçus, du début à la fin. Nous sommes toujours dans Du côté de chez Schwartz, l'émission culturelle et actuelle de Radio Shalom, en compagnie de Melvina Mestre, qui nous parle de ses polars publiés dans la collection Policier chez Point. On va essayer de dire un mot de chacune de ces enquêtes policières. Donc d'abord, Crépuscule à Casablanca. Alors je vous demandais tout à l'heure, en fait, elles ont été publiées en l'espace de deux ou trois années ?
Il y en a eu un par an depuis trois ans. Oui.
Est-ce que vous les aviez pensées avant et leur sortie a été mise à la suite, ou est-ce que vous les avez écrits dans la foulée très rapidement?
Alors quand Crépuscule à Casablanca est sorti, il était fini depuis longtemps, parce que après voilà, le temps de l'édition, c'est pas le temps des auteurs. Et tout de suite, je m'étais déjà mis sur Sans encre à Marrakech, et c'est vrai que je voulais parler de Bouzbir, qui était ce qu'on appelait pudiquement le quartier réservé à l'époque, en fait un immense bordel. C'est même le plus grand bordel du monde. En 1950-52. Et l'histoire de Tanger, alors c'est vrai que je voulais parler de Tanger parce que je trouve que, pareil, c'est un beau décor pour de l'espionnage. Et je suis tombée sur cette affaire du Combinati. Ça dévoile pas d'en parler parce que tout le monde a oublié et personne sait ce que c'est. Et quand j'ai vu que tout partait de Tanger, je me suis dit, ça sera la prochaine enquête de Gabriel Kaplan. Et mon éditrice a eu la gentillesse de me suivre et était emballée. Donc c'est pour ça que ça s'est enchaîné si vite, mais j'ai pas écrit tout ça en trois ans, ça c'est sûr.
Alors, on ne va pas raconter les livres, parce que ce serait dévoiler trop de ce qu'il y a dans le livre, mais on va essayer d'en dire un mot. Donc, Crépuscule à Casablanca, c'est au début une affaire banale qui bascule vite dans une course-poursuite politique. Et on voit que vous aimez mélanger les genres. Est-ce que c'est un peu aussi votre marque de fabrique?
Oui, c'est vrai que j'aime bien que le contexte historique soit important, et j'aime bien la petite histoire et la grande histoire entremêlées, en fait. Donc la petite histoire, c'est l'enquête de Gabriel Kaplan, et la grande histoire, c'est qu'il y a toujours un contexte, et là aussi on découvre des choses, et c'est pas toujours comme on pensait que c'était au début, et ça évolue. L'histoire de Crépuscule à Casablanca, justement, c'était en faisant mes recherches, j'ai découvert ce personnage, le maigre Dubreuil. Et cette histoire de valise, et alors ça, pareil, je me suis dit, mais alors là, c'est un roman policier et il faut écrire autour. Pour Sans encre à Marrakech, c'est un petit peu différent parce que...
Alors, on peut dire un mot, puisque c'est les marges de la société que vous explorez, vous l'avez dit, la prostitution, les quartiers réservés, le sens des tatouages dans les montagnes. Est-ce que c'est aussi une sorte de façon de parler des silences de l'histoire, de mettre en avant des choses qu'on a oubliées?
Exactement.
Ou qu'on n'a jamais su?
C'est ça, c'est que ça ne m'intéresse pas de faire un énième livre sur quelque chose que tout le monde connaît. Et alors que là, l'assassinat de Le Maigre Dubreuil, même des Marocains férus d'histoire ne connaissent pas forcément cet épisode. Bouzbir, pareil, c'est pas quelque chose de très connu, parce que on peut se douter que ni la France ni le Maroc ne revendiquent cette période, cet événement. Et quant à la à la pègre marseillaise qui était à Tanger dans les années 50. Ça s'est totalement oublié aussi, parce que moi, quand j'étais à Tanger cet été, j'ai interrogé plein de vieux Tangérois qui connaissaient plein d'histoires et d'anecdotes, mais ça, ils le savaient pas particulièrement. Donc oui, c'est un coup de projecteur. Après, je fais pas non plus que du local et du ça a vocation à être universel et à intéresser tout le monde, avec justement cette héroïne qui est attachante, et puis voilà, des rebondissements.
Et puis on parle pas que du Maroc, de la France, exactement. De la Corse, des milieux mafieux, interlopes, des nids d'espions, et parfois c'est du voisinage, un brouillage de pistes entre roman noir et roman d'espionnage, et c'est ce qui fait peut-être l'efficacité aussi de la fiction. Alors l'ambiguïté aussi, elle est dans les personnages, parce que certains, on les pense gentils ou méchant, et puis finalement, c'est pas toujours ce qu'on croit. Cette zone grise, elle vous intéresse aussi?
Ah, c'est ça qui est intéressant. Oui. Il y a toujours 50 nuances de gris. Oui. C'est un peu aussi le. Dans Son encart Marrakech, c'est un. Le meurtrier, on découvre qu'il n'est pas que très méchant. Mmh. Et je trouve que c'est intéressant aussi, parce que on est tous complexes et faits de contradictions. Et c'est ça aussi.
Alors, je reviens à une question que je vous avais posée au début, c'est que Gabriel Caplan, finalement, on a du mal à... Alors, vestimentairement, vous la décrivez bien, mais physiquement, on a du mal à savoir si elle est jolie, si elle n'est pas jolie. Et selon les romans, aussi, les tomes, ça change aussi. Et vous disiez non au début, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose un peu de vous aussi dans ce personnage?
De toute façon, on met forcément un peu de nous quand on écrit, ça c'est sûr.
Oui.
Qu'elle est de la répartie et qu'elle est son franc-parler, ça c'est sûrement une caractéristique qui vient de moi. Après, physiquement, quand je la décris plus d'ailleurs dans Bon baiser de Tanger, parce que justement on m'avait dit mais on sait pas comment elle est. Alors allez, je vous explique comment elle est. Et non, elle me ressemble pas tant que ça. Et puis encore une fois, elle a un courage que j'ai pas, donc et une indépendance que j'ai pas non plus. Donc.
C'est un portrait à l'envers.
Alors, c'est pas non plus en creux, non. J'irai pas jusque-là non plus. Bon, sûrement qu'il y a un petit peu de moi, oui. Et puis après, on invente une héroïne pour qu'elle soit attachante et qu'on ait envie de la suivre.
Alors, vous parliez aussi de la bibliographie à la fin des deux derniers tomes. Mais est-ce que vous avez eu des maîtres, vous avez lu des maîtres, eu des influences en littérature ou même en cinéma dans ce domaine-là, de l'enquête policière, du polar?
Alors, évidemment, en cinéma, c'est quand même Hitchcock, le maître. Ouais. On parle de maître, là. Alors, dans les policiers, j'aime beaucoup Léo Mallet. Et justement, le travail qu'il a fait sur les mystères de Paris, où c'était une intrigue par arrondissement. Et pareil, Nestor Burma, c'est l'enquêteur, mais il y a toujours une petite équipe autour. Il y a sa secrétaire, il y a un journaliste. C'est vrai que... Et puis je trouve qu'aussi, d'ailleurs, c'est dans les années 50 qu'il écrit, c'est après-guerre. Et voilà, je pense que c'est une influence qui a été marquante, oui. Après, c'est vrai que j'ai beaucoup relu ce qu'on écrivait à l'époque, dans les années 50, en espionnage, que ce soit Paul Kenny ou Jean Bruce de OSS 117. Et c'est pas du tout adapté. C'est très, très lent par rapport à ce qu'on écrit de nos jours. Donc, on ne peut pas dire que ce sont des influences. Et puis, alors, ce n'est pas drôle du tout. Ce n'est pas les films d'Aznavicius. Et puis, il n'y avait pas... Les femmes, quand il y en a, c'est des grosses méchantes ou des salopes. Ouais. C'est un autre univers. Sinon, dans les influences, je crois que c'est beaucoup ça, quand même.
Est-ce que c'est de la littérature pour la littérature, ou est-ce qu'il y a des messages que vous souhaitez faire passer?
Ah, bonne question.
Parce qu'on sent ce milieu de l'avant-indépendance. On ne sait pas clairement ce que pense Gabriel Caplan, mais on subodore que le Maroc a besoin d'être autonome, indépendant.
Oui, ça c'est sûr que... Après, c'est toujours facile d'avoir raison 50 ans après. Mais... Non, c'est pas des messages que je veux faire passer, non. Mais en tout cas, c'est une réalité dont on parle pas souvent. Après, c'est de la fiction. Attention, c'est pas des livres d'histoire. Mais
est-ce que vous pensez à vos lecteurs quand vous écrivez?
Ah bah évidemment.
Oui. À qui pourra le recevoir? Vous disiez en fait, j'ai l'impression que même un adolescent peut lire le livre.
Oui, oui, oui.
Et jusqu'à 120
ans. Il y a des adolescents qui me lisent d'ailleurs parce que j'ai reçu un ou deux courriers de et ça me fait plaisir. Alors j'étais au Maroc en juillet dernier. J'avais fait une lecture, enfin une présentation dans une librairie. Il y avait beaucoup de jeunes. De jeunes Marocains, et ça m'a vraiment fait plaisir parce qu'ils me disaient, bah, nous, on ne savait pas tout ça. Et alors, j'ai aussi beaucoup de nostalgiques et des seniors ou des gens un peu plus âgés qui ont connu cette période ou qui ont grandi dans les années 60-70 et qui me disent, ah, je retrouve le Maroc de mes parents et de toutes les communautés, c'est ça qui est agréable.
Oui, alors il faut insister, oui, c'est un livre qui est universel, on l'a dit tout à l'heure, qui ne s'intéresse pas forcément aux Juifs parce que Gabriel Kaplan est juif, aux musulmans ou aux chrétiens.
Exactement.
C'est un livre qui fait sens pour tout le monde.
Oui, c'était... Alors ça, pour le coup, c'est vraiment quelque chose que je voulais dès le début et que j'essaye de pas négliger. Et d'ailleurs, oui, oui, c'est présent à chaque fois.
Est-ce qu'il y a un quatrième tome en route?
Bah vous pensez bien que oui.
Oui. Oh là là. Il sortira prochainement?
Ah, ça, je ne sais pas, parce que là, pour le coup, je... Enfin, y a rien de contractualisé, mais oui, 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 je suis toujours en éveil et en ébullition.
Alors, il y a une question classique, mais pas forcément facile pour terminer cette émission. Si, en une ou deux phrases, vous deviez donner l'envie aux auditrices et aux auditeurs de Radio Shalom de lire votre livre, qu'est-ce que vous leur diriez?
Alors, ce sont des enquêtes où on passe un super bon moment parce que c'est quand même assez léger, divertissant, mais on apprend plein de choses avec une héroïne, voilà, attachante, moderne pour l'époque. Et encore une fois, si on connaît le Maroc et si on aime bien cette ambiance des années 50, pardon, on reconnaît plein de choses et on, voilà, on retrouve plein de choses, mais c'est vraiment pas réservé que à ces gens-là. Moi, j'ai des lecteurs qui connaissent pas plus que ça le Maroc, mais qui aiment bien le personnage, qui aiment bien l'époque, voilà.
Mais il ne me reste plus qu'à vous remercier, Melvina Mers, d'avoir accepté d'être à nos côtés aujourd'hui. Alors, je ne le dis pas souvent, mais là, vraiment, j'insiste, c'est un vrai coup de cœur. Je pense que c'est une triple lecture de vacances indispensable. Ce n'est pas très lourd. En plus, vous pouvez les emmener dans vos bagages ou les offrir dans l'avion, sur la plage. On est happé. Personnage singulier et attachant de Gabrielle Kaplan et par les péripéties qu'elle vit. Donc, trois enquêtes policières, Crépuscule à Casablanca, Sans d'encre à Marrakech, et puis tout récemment Bon baiser de Tanger, qui ont paru chez Point, collection policier. Et n'hésitez pas à vous les procurer et à les offrir à ceux que vous aimez. À très bientôt sur les ondes de Radio Shalom.
Merci Sandrine.